Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous.
Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Toute une vie, Rudolf Nureyev, un documentaire de Gilles Yoncan, réalisé par Bruno Sourcy.
Une vie, une œuvre. Rudolf Nureyev. Gilles Yoncan, Bruno Sourcy.
Rudolf m'a appris l'analyse. C'est le premier, je dois dire, de tous les gens classiques qui m'ont fait travailler. C'est celui qui m'a parlé d'une manière scientifique, je dirais, j'emploie ce mot exprès, du classique. C'est-à-dire, voilà, j'ai compris que d'un coup, il y avait des axes, des changements d'axes, des lancers de jambes dans tel endroit pour atterrir à tel autre. Il savait tout, mécaniquement, exactement comment ça se passait. Comme un sportif pour réussir un double saut, il part pas à l'aventure.
Contre-révolution, pourquoi ? Parce qu'il est arrivé dans une structure extrêmement hiérarchisée, hein, vous savez à quel point nous fonctionnons dans une hiérarchie, et que malgré cette structure, lui a très bien compris, mais s'est quand même positionné différemment par rapport à ça. Il a dit... la petite blonde dans le fond, le petit brun derrière, moi j'ai vœux devant.
À la fois puissant, magnétique, fauve, puis bouillonnant et capricieux, Rudolf Nureyev reste la plus grande star de ballet de tous les temps. Ce danseur exalté a révolutionné l'art de la danse du XXe siècle. Quel est ce vertige intérieur que suscitent les apparitions de Nureyev ? D'où vient cette fascination qui perdure ? C'est qu'il y a dans ses fameux sauts et manèges un secret qui allie rigueur et fureur. Un romantisme habité, une grâce souveraine. Mais cette sauvagerie cache une propension à l'excès et des colères noires. Il ne faut pas oublier les tortures imposées aux autres, qu'il imposait à lui-même, selon Patrice Barre. Approcher et connaître Nureyev exige d'apposer en permanence les deux faces d'une même médaille, l'ange et le démon, le feu et la glace. Ce documentaire tentera de mettre l'accent sur un double aspect, l'apport du danseur et celui du chorégraphe. Il lèvera aussi le voile sur un autre aspect, Nureyev à la barre. Du premier ballet qu'il remonte, Raymonda, au Royal Ballet de Londres, à sa tournée parisienne où il laisse le public ébloui, de son triomphe dans le ballet du Marquis de Cuevas, à sa liaison artistique avec l'étoile Margot Fontaine, le transfuge du Kirov écrit sa propre légende, sillonnant durant 20 ans les grandes scènes et les compagnies les plus célèbres du monde. Mais le Tatar ne se contente pas de la maîtrise de son art. Par ses relectures des ballets de petits pas, il dépoussière et modernise la danse classique. En prenant les rênes de l'Opéra de Paris en 1983, il introduit de la complexité dans les ballets, épaissit la psychologie des personnages, redonne une dimension au corps de ballet. Quelle place occuper quand on est accusé en 1961 d'avoir trahi sa patrie ? Comment pratiquer son métier en étant contraint à l'asile politique ? Le danseur misanthrope s'est toujours tenu à rebours des conventions, assoiffé de monde nouveau, brûlant la vie. À l'image de Nijinsky, ce prince classique dépasse le cadre de la danse et devient un personnage romanesque. Dominique Delouche.
Je l'ai vu au mieux de sa forme, comme peut-être même ses danseurs ne l'ont jamais vu. C'était tout à fait à son arrivée à Paris, avant même qu'on sache qu'il y avait un Nureyev, c'était dans la troupe du Kirov, quand il a dansé cette variation de la Bayadère, où tout d'un coup il s'est passé quelque chose que personne n'avait jamais vu dans son expérience d'amateur de ballet. une espèce de prise de possession de l'espace. La scène était à lui tout d'un coup. Il ne la partageait pas d'ailleurs. Il ne partageait pas beaucoup son art. Hein. Quand il était sur scène, il était très narcissique, il faut bien le dire. Et là, cette espèce d'oiseau justement, s'emparait des trois dimensions, la hauteur, la largeur, la profondeur, si vite d'ailleurs, d'une façon foudroyante, ça me fait penser à l'éclair ou peut-être encore plus la foudre, parce que son essor, sa force, il apprenait de terre, si vous voulez. Ça sortait de terre et ça défiait la pesanteur. Alors qu'on pourrait penser au contraire qu'un danseur, c'est un ange qui descend du ciel et vient planer sur la terre. Lui, c'est plutôt le sens inverse.
Alors avant tout, est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre expérience avec Rudolf Nureyev ?
Alors je suis rentrée donc sous la direction de Rosella Hightower.
Elisabeth Morin.
Enfin, la fin de la direction de Violette Verdi et le début de la direction de Rosella Hightower était programmée au Palais des Congrès, une grande série de La Belle au Bois Dormant. Et j'étais à ce moment-là déjà coryphée. Et donc, j'avais été plus ou moins remarquée pour danser la princesse Florine dans le passage de divertissement de l'oiseau bleu au troisième acte. Et Rudolf Nureyev avait été donc invité à venir danser le prince désiré. Et c'est la première rencontre, je dirais, ce sont nos premiers échanges, nos premiers regards. J'ai senti un regard sur moi, celui très impressionnant de Rudolf, et finalement il m'est resté toujours fidèle depuis ce moment-là. Il y a eu juste un tout petit échange oral, mais je ne sais plus, je m'en souviens plus, j'étais trop intimidée, mais je me souviens d'un petit échange, et après donc c'est concrétisé ce regard et c'est cette envie finalement de d'évoluer ensemble sous sa direction. Et c'est vrai que l'impression générale que je peux avoir, c'est que j'ai l'impression que tout ce que j'ai essayé d'atteindre était quelque chose de profond. Il n'était pas juste comme ça, soit de la technique, soit une interprétation, soit voilà, il y avait une profondeur. J'avais l'impression d'exister avec les pas, avec les histoires, avec les rôles, les personnages. Ça, il nous a transmis ça.
Alors Wilfried Romoli, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Vous êtes danseur étoile, professeur de danse à l'école de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre expérience avec Rudolf Nureyev ?
La première fois que j'ai rencontré Rudolf Nureyev, c'était en 1979. C'était ma première journée dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. J'ai été mis sur la création de Manfred, donc qu'il faisait. Et donc, c'est un peu le signe du destin. J'ai commencé mon premier jour dans cette compagnie avec lui. Voilà, ça a débuté comme ça. Ça a débuté plutôt mal, on va dire. Enfin, ça se passait bien, mais nous avons eu le concours au mois de décembre, auquel il a assisté, puisqu'on était en création avec lui. Enfin, on avait commencé les spectacles. Et il avait dit de moi à l'époque que j'avais été le plus mauvais de tout le concours. J'étais pas un bon danseur. Voilà, puis on s'est pas revus pendant environ 2-3 ans. Et puis on s'est revu au cours un jour, il est revenu au cours et là il est venu me voir. Ça a été la première chose intéressante qu'il m'ait dite vraiment. Il est venu me voir et je venais de faire des grosses prouesses techniques et tout le monde m'a applaudi. Et il est venu vers moi, il m'a demandé mon âge. Donc je lui ai dit mon âge. Il m'a dit c'est très bien, dans 10 ans vous ne faites plus ce que vous faites. Et il est parti. Alors là j'ai pas compris, en bon orgueil, je me suis dit quel con, franchement il est jaloux. Voilà. Et puis le lendemain, parce que Rudolf était toujours comme ça, il expliquait jamais, il lançait des choses. Et le lendemain, il est revenu au cours et je refais les mêmes choses puisque je travaillais ça pour un gala et rebolote, je refais ça très bien, je me fais à nouveau applaudir et il me regarde et il sourit. Et donc là, je vais le voir. Quand même, dans la nuit, j'avais un peu réfléchi, je me suis dit quand même, c'est un grand bonhomme, il faudrait quand même que je comprenne. Donc je suis allé lui demander, je lui ai dit, écoutez, je comprends pas. Hier, vous me félicitez, tout le monde m'applaudit, vous me dites que c'est bien, et en même temps, vous me dites juste après que je le ferai plus dans 10 ans. Et il m'a regardé, il m'a juste dit, tu fais ça sur une force, pas sur un travail. Donc quand tu n'auras plus de force, tu sauras plus le faire. Et il est parti. Et voilà, ça, c'était la deuxième rencontre. Et la troisième rencontre, c'est que j'ai su que cet homme, que je pensais qu'il ne m'aimait pas du tout, était nommé directeur. Et voilà, ça, c'était la troisième rencontre qui a duré 7 ans. Et où ça a été plein de choses mélangées, ça a été
beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de rage après lui, et beaucoup d'amour en même temps, et beaucoup de travail, et beaucoup de progrès. Voilà, c'est mon guide, c'est mon maître. Voilà, avec ces deux, trois petites phrases au cours de ma vie, il a fait de moi ce que je suis quand même en grande partie. Voilà, sur une ligne de conduite, sur une manière de travailler. Aujourd'hui encore, je débute dans la pédagogie, j'ai débuté il y a un mois et demi, et j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois, et entre autres sur des lignes de travail. Voilà, j'ai mes petits élèves qui sont des petits bouts de choux, qui ont commencé à rater des trucs, et je les ai félicités. Ils n'ont pas compris. Et je leur ai dit, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pris. C'est pas le résultat pour l'instant. Si le chemin pris est bon, voilà. Moi, ça, c'est typiquement Rudolf. Rudolf m'a félicité plusieurs fois que j'avais fini le cul par terre. Ce qui l'intéressait, c'était le chemin pris. Voilà. Toute sa génération, il nous a vraiment construit comme ça, éduqué comme ça, et ça, on le lui doit.
Bonjour Patrice Barre, merci de nous recevoir à l'Opéra de Paris. Vous êtes maître de ballet à l'Opéra de Paris, associé à la direction de la danse. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première expérience avec Rudolf Nureyev ?
Écoutez, j'ai eu plusieurs expériences avec Rudolf Nureyev. La première, c'était en tant que danseur étoile. Quand je dansais en artiste invité avec le London Festival Ballet, quand il a créé son Roméo et Juliette et La Belle au Bois dormant. Enfin, sa relecture de La Belle au Bois dormant. Et donc j'étais avec lui pour le rôle de Mercutio, Roméo, et le L'Oiseau Bleu pour le rôle de La Belle au Bois dormant. Et c'est là où j'ai donc. Mais je connaissais Rudolf déjà depuis longtemps, puisque j'avais eu la chance de le voir quand il est arrivé en France en 1961, et qu'on a découvert cet être exceptionnel. Voilà.
Donc, avant votre première expérience avec Rudolf Nureyev, vous aviez une image de lui qui était façonnée par des médias, par des mythologies, ou est-ce que c'était quelqu'un que vous avez appris à connaître au fur et à mesure ?
C'est quelqu'un que nous avons découvert, comme je vous disais, quand il est sorti de Russie en 61. Mais on n'avait pas du tout entendu parler de lui. Je veux dire, il était au Mariinsky, qui était le Kirov, comme vous le savez, à l'époque. Et donc... Il était très jeune et il n'y avait pas du tout de vent, de choses qui parlaient de Rudolf avant que chacun le découvre sur la scène de l'Opéra de Paris.
C'était dans les années 82-83.
Véronique Doineau.
Et donc, moi, je venais de monter Coryphée, qui est le grade intermédiaire du corps de ballet. Et M. Nureyev est arrivé avec sa vision de la danse, avec ses espoirs par rapport à la compagnie, avec ses envies. Et donc, il a essayé de visualiser quel était le potentiel de cette compagnie. Et c'est vrai qu'il s'est beaucoup tourné vers la jeune génération. Et donc, on a tous eu de sa part des propositions professionnelles extraordinaires. Même si on n'avait pas grand-chose à danser, c'était tellement riche d'enseignements que c'était formidable. Donc on est toute une génération, effectivement, à avoir profité de l'enseignement et des propositions de M. Nourieff.
Et vous en parlez, notamment dans le ballet qui porte votre nom, Véronique Doineau, de Jérôme Bell. Vous êtes seule sur scène et vous dites qu'il a été fondamental pour vous.
Oui, parce que c'était une rencontre où il pouvait, en ne maîtrisant pratiquement pas le français, nous faire comprendre que le langage, l'écriture du classique était le premier des respects à avoir. Après, une fois qu'on avait la maîtrise complète, on pouvait envisager de s'exprimer un peu plus. Mais pour lui, l'expression de l'artiste était essentiellement liée à l'écriture de la danse classique ou d'une autre forme de danse si l'artiste pratiquait une autre forme de danse.
Alors ce serait, vous citez, respecter le geste plutôt que de l'interpréter, ce serait une définition possible du travail du chorégraphe Nourieff ?
Lui était essentiellement là-dessus. Il nous demandait d'être dans l'exactitude de la réalisation. Il ne voulait pas que l'imaginaire prenne la place d'une capacité à contrôler techniquement les choses. Et je pense qu'il avait raison. On est dans des formes artistiques qui sont extrêmement compliquées à mettre en place. Et si on ne travaille pas dans le sens du langage, on perd la précision de ce langage de la danse classique. Et du coup, l'interprétation devient compliquée, puisqu'on n'a plus les mots de la danse prononcée de façon correcte.
Son travail au quotidien, justement, diffère-t-il selon qu'on soit soliste, étoile ou alors membre du corps de ballet? Est-ce qu'il a une attention qui diffère en fonction des danseurs?
Ben, il a eu un petit peu, enfin, il y a eu une, comment dire, quelque chose qui n'était pas tout à fait dans le fonctionnement qu'il aurait souhaité quand il a pris la direction de l'opéra, parce qu'il faut savoir que cette institution a une hiérarchie bien précise, à un concours annuel, à donc des premiers danseurs, des étoiles. Il y a donc une hiérarchie à respecter. Et c'est vrai que lui n'a eu de cesse que de finalement de sortir des jeunes et de tester la jeunesse assez rapidement, avant même que cette jeunesse ait atteint le poste voulu adéquat pour cela. Et en cela, nous avons aussi quelque part bénéficié de cela et nous avons brûlé les étapes tout en Il a respecté, bien sûr, les étoiles. Il les a amenées. Ces étoiles vous diront qu'elles ont été amenées à penser différemment. Elles n'ont pas dansé de la même manière, n'ont pas continué à évoluer dans leur carrière de la même manière qu'elles l'auraient fait si Rudolf n'était pas arrivé. Tout le monde n'a pas pu trouver sa place. Il y a des gens qui ont souffert, il faut le savoir. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu rentrer justement dans cette ligne de conduite. Mais je veux conclure par le fait que corps de ballet, soliste ou voire étoile, finalement pour Rudolf c'était un tout. C'était l'Opéra de Paris. Et je crois qu'il a trouvé chez nous cette chance énorme d'avoir justement une homogénéité de personnes. Et le corps de ballet, comme il disait, était presque plus important qu'une très très bonne étoile ou que des solistes merveilleux. Il fallait que l'écrin soit aussi à la hauteur. Et je crois qu'il a trouvé ça. Enfin, je crois que ce qui lui a le plus motivé, enfin, l'opéra est le plus... ce qui l'a le plus enrichi, c'est le fait d'avoir un corps de ballet très, très, très à la hauteur et des étoiles qui, bien sûr, issues d'une même école.
Alors vous dites aussi dans le ballet qui porte votre nom, il avait tout compris. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu cette phrase ?
C'était un personnage qui était dans la danse.
Véronique Doineau.
C'était plus un ressenti. J'avais la sensation qu'il était, que toutes ces molécules étaient dans la danse. Il n'y avait pas de snobisme du tout. Il n'y avait pas d'ego démesuré par rapport à ça. Le matin, il venait prendre le cours de danse classique avec nous. C'était normal. Il se levait. C'était normal de faire son cours de danse classique. On parle de quelqu'un qui avait déjà 45 ans, hein, et qui était déjà malade. Mais il y avait cette évidence. Il était toujours très présent, répétition. Il pouvait se fâcher comme tout le monde, mais il y avait toujours cet amour de venir vous dire « Non, ça n'est pas comme ça que tu dois faire. Là, peut-être tu peux faire ça. On recommence parce que ça n'était pas assez musical. » Et tout ça se passait dans une ambiance qui était certes un peu russe, donc un peu débordante, mais avec toujours ce regard du professionnel. Il ne jugeait jamais sur une allure ou sur une expression. Il jugeait le pas de danse tel qu'il avait été fait. Pour moi, ça a été extraordinaire.
C'est un homme, alors aujourd'hui on s'en rend moins compte, mais c'est un homme qui a relevé le niveau masculin monstrueusement.
Wilfried Romoli.
Dans ses chorégraphies, l'homme danse énormément. Il y a très peu de chorégraphies, dans les ballets classiques, hein, je parle, où l'homme a autant à danser. Ça arrive pratiquement pas. Il a relevé le niveau technique, c'est-à-dire qu'il fait faire des variations d'abord très techniques, très difficiles, et en mouvement. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup, vous voyez, des fois vous voyez des grands spécialistes techniques, la musique s'arrête, paf, on fait un dégagé, on balance 5-6 tours. Lui, c'était pas ça. Lui, les 5-6 tours, si elle devait arriver, c'était dans un mouvement extrêmement complexe avant, de la danse, quoi, le mouvement. C'est un homme aussi qui s'est beaucoup inspiré des Anglais, de Macmillan et puis Frédéric Ashton. C'est un homme qui a beaucoup aussi dans ses ballets fait des variations féminines pour l'homme, enfin féminines, qui vont laisser développer une sensibilité plus fragile de l'homme et basée sur de la technique d'adage, ce que moi j'avais jamais vu avant Rudolf, quoi. Alors oui, Macmillan l'avait fait dans Manon, etc., et Ashton l'avait fait dans d'autres ballets, entre autres dans Un lac des cygnes aussi, où il y avait déjà, ou dans La Belle, ce qu'on appelle les variations lentes. Rudolf, il y a deux variations comme ça dans sa Bayadère, il y en a une comme ça dans sa Belle qui dure 8 minutes. Il y en a une au début de Roméo, il y en a une dans Le Lac. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'il a développé, qui demande des qualités aux danseurs, des qualités de femme, de retenue, d'équilibre, enfin plus de femme, on va dire, et de ligne de jambes.
Alors, il y a un autre apport, Wilfried Romoli, un autre apport de Nourieff, c'est notamment les rôles de caractère. Et ça, vous en avez fait beaucoup.
Oui, c'est-à-dire que Rudolf, c'est là où il a développé le rôle de l'homme. C'est qu'en plus, tous les seconds rôles, il les a extrêmement développés. Parce qu'en fait, souvent, on dit, ouais, le rôle principal, c'est le prince. Bien sûr que c'est le prince. Mais finalement, le rôle principal, c'est pas le prince, c'est Rothbard. C'est lui qui fait tourner l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans Gisèle, c'est Hilarion qui fait tourner l'histoire. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. C'est lui qui l'a fait bouger. Et c'est souvent les seconds rôles qui font bouger.
qui sont pivots. Et donc Rudolf, pour lui, dramatiquement, c'était important le second rôle.
De rencontrer Rudolf Nureyev, vous aviez quelle image de lui comme danseur ?
Je n'avais aucune notion, aucune connaissance, aucun contact. Je n'avais, comme toutes les petites filles qui commencent la danse, que des photos. Et je le trouvais absolument magnifique. C'est-à-dire que c'était une représentation du danseur dans toute sa splendeur, j'allais dire, pas que esthétique. On sentait même au travers des photos qu'il y avait une vivacité, une force presque animale chez cette personne. Et moi qui ai tant regardé les photos de lui quand j'étais petite fille ou jeune fille, le fait d'avoir fait la rencontre avec lui, je le trouvais autant plein de choses que ce que j'avais pu lire sur les photos, si ce n'est plus, bien sûr.
Quelles étaient ses faiblesses de danseur, s'il en avait ?
Alors, il me semble qu'il était très conscient, comme tous les danseurs, de ses aptitudes esthétiques et physiques. Je crois qu'il était assez complexé de ne pas avoir des très grandes jambes. Il faut savoir que ça a été l'ami de Monsieur Éric Brune qui, lui, avait des jambes absolument fantastiques. Il disait volontiers qu'il était un peu large de hanches. Moi, la seule chose que j'ai retenue de cet homme, c'était la structure de son dos. Puisque c'est quelque chose de particulier en ce qui me concerne, et que j'ai, après mon accident du dos, j'essayais, dans la mesure du possible, d'aller dans les cours où il était et de me mettre le plus près possible de lui pour m'inspirer de ce dos si magnifiquement fait pour la danse, et qu'il continuait à travailler alors qu'il était obligé de se bander les mollets, ses pieds étaient complètement déformés.
Thank you.
Alors Elisabeth Morin, comment définir le long travail, le long processus de relecture de Nourrieff à partir des chorégraphies de Petit Pas?
En fait, l'opéra n'avait plus, Petit Pas, puisque c'est le répertoire Petit Pas qui est français, donc avait monté ses œuvres en Russie, puisqu'il était parti à Saint-Pétersbourg, donc au Mariinsky. Et en fait, ça nous revient, bon, déjà un petit peu par les ballets russes, mais surtout par Rudolf, qui a donc fait la relecture de ces ballets, a étoffé le rôle du danseur, qui n'était plus juste le partenaire de l'étoile, le faire-valoir de la danseuse. Il a vraiment étoffé ses rôles. Il a approfondi les histoires dans le sens où il a psychologiquement réinterprété ses ballets. La Belle n'est plus un conte de fées, la Belle devient psychologiquement intéressante, ne serait-ce que même pour l'interpréter. Il y a une profondeur dans ses ballets, un aspect freudien, enfin il a été creusé les personnages. Voilà. Et au niveau chorégraphique, il y a des choses qui sont purement Petit Pas et il y a aussi purement Rudolf, c'est-à-dire avec un répertoire, avec une chorégraphie académique. Il y a tout ce côté boulimie, je dirais, des pas, d'avoir un pas sur chaque note et qui fait la marque de Rudolf et qui nous attend enrichi et donné, comme dire, à manger aux danseurs. Ça, c'était son grand mot, donner à manger aux danseurs.
Alors un exemple parmi 100, vous interprétez une des sœurs de Cendrillon. Alors ce sont des sœurs qui sont un peu disgracieuses, qui sont assez méchantes ou qui ne font pas des gestes totalement orthodoxes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration avec lui sur Cendrillon?
Le ballet Cendrillon, en fait, la particularité, disons son originalité, c'est qu'il l'a retransposé dans le milieu cinématographique d'Hollywood. Après, les sœurs, elles restent les méchantes sœurs, les horribles, il les a caricaturées. Alors, bien sûr, on a caricaturé la barre, enfin, à un moment donné, parce qu'elles veulent danser, bien sûr, et alors elles sont terriblement en dedans, complètement recourbées, c'est catastrophique. Bon, moi, j'ai absolument pris un énorme plaisir, bien que ce soit très très dur au niveau endurance, parce que ça, il avait l'art, Rudolf, de compliquer tout, quoi. Mais c'était absolument... J'ai aussi interprété le rôle de Cendrillon, mais je dois avouer, entre parenthèses, que j'ai pris plus de plaisir à danser le rôle des sœurs que celui de Cendrillon. Voilà, qui était créé pour Sylvie Guillem, et on sentait bien d'ailleurs que chorégraphiquement c'était fait pour elle. L'originalité est surtout dans l'aspect cinématographique, la retransposition dans Hollywood, quoi,
le producteur.
Le producteur, Groucho Marx, enfin bon, il adorait Fred Astaire, il adorait tous ces petits films, les films muets, enfin tout ça, tout est... Il y a le King Kong aussi, enfin il y a plein de choses, il y a plein de clichés, disons, de hollywoodiens qui sont très, très intelligemment retransposés dans Cendrillon.
Il a voulu, par ce travail qu'il a fait au cours des années, conserver la vie à tous ces grands ballets qui pouvaient passer un peu, disons, du côté un peu musée, un peu vieillot. Il a vraiment fait un travail extraordinaire pour redonner de la vie et de l'énergie à tous ces grands ballets. Parce qu'il avait une passion pour Marius Petit Pas. Il avait aussi une passion pour Balanchine, qui pensait que c'était le descendant direct de Marius Petit Pas. Et après, William Forsythe. Pour lui, c'était la lignée Petit Pas, Balanchine, Forsythe. Yeah.
Dans l'histoire de la danse, Véronique Doineau, comment vous situez Rudolf Nureyev? Je sais que vous aimez particulièrement Forsyth, Jérôme Robbins. Nureyev, ce serait, il serait où exactement dans cette constellation?
Ce serait le point de départ, puisque M. Forsyth, M. Robbins sont des déclinaisons du classique pur. Et je pense que, il me semble que M. Nureyev nous a, même si notre école française est magnifique, nous a proposé d'accepter de rester jusqu'au bout dans cette rigueur. On ne peut pas écrire un essai ou un roman en ne maîtrisant pas le langage. Et lui était vraiment dans cette idée-là, et c'est là où moi j'ai fonctionné très très bien avec lui. Donc pour moi, Nureyev est la représentation et le travail qu'il a fait sur la richesse du classique. C'est ça aussi qui permet à des gens comme Forsyth de déconstruire ce classique-là, ou à des gens comme M. Robbins de le fluidifier pour y apporter, lui, ses connaissances, enfin ses imprégnations américaines ou ses imprégnations russes. Donc je pense que c'est dans ce sens-là, s'il y avait un petit ordre chronologique à établir, moi je le visualiserais comme ça.
Noëlla Pontois, il y a de cela quelques années, vous étiez au Châtelet. Mais c'était le commencement, c'était la petite Noëlla Pontois qui voulait devenir danseuse. Beaucoup de chemin parcouru en peu d'années. Maintenant, vous êtes au sommet de la gloire, en définitive, non?
Non.
C'est la première fois qu'à Paris, vous allez donner la belle. C'est un spectacle important pour vous, quand même.
Très important et très agréable.
Quel partenaire est Rudolf Nureyev?
Très agréable aussi.
Très agréable.
Oui.
Vous êtes heureuse de danser la belle à Paris.
Voilà.
Alors comme tout le monde attend que vous la dansiez avec Rudolf, je vais vous laisser regagner les coulisses, retrouver Rudolf Nureyev et nous danser pour terminer cette rencontre avec un extrait de La Belle au bois dormant. Merci. À tout de suite. Cette rencontre avec va donc se terminer par cette présentation d'un grand pas de deux. Rudolf Nureyev, Noëlla Pontois. Rudolf Nureyev, Noëlla Pontois.
Maurice Béjart.
J'accuse M. Nureyev d'avoir menti, d'avoir délibérément fait ce coup pour qu'on ne parle pas de cette fête, cette beauté, cette joie, mais que son nom peut-être absent de cette soirée soit cité partout dans la presse. J'accuse M. Nureyev depuis 3 ans de faire une politique contre la grande danse traditionnelle française. J'accuse d'avoir tenté de déstabiliser l'école de danse, heureusement, merveilleusement tenue par Claude Bessy, qui en a fait la première école du monde et qui produit les meilleurs danseurs du monde. Je l'accuse d'avoir menti à M. Roland Petit, de l'avoir insulté sur scène et de l'avoir obligé à retirer ses ballets du répertoire, privant ainsi un grand chorégraphe français de notre scène nationale. Je l'accuse d'avoir éliminer M. Patrick Dupont, le plus prestigieux, le plus célèbre danseur français. Il n'a pas de contrat, il ne danse pas actuellement, on ne l'emploie pas. Je l'accuse profondément du malaise de l'opéra et je viens ce soir lui demander de se retirer de cette scène. Au revoir, M. Nureyev. Thank you.
Nureyev, c'est à la fois le prolongement de la tradition russe, oui, avec Petit Pas, et en même temps, c'est une sorte de modernité, puisqu'il y a un pas sur chaque note, donc je crois qu'il revient à la base de la danse classique. Dominique Delouche.
Oui, alors moi je dirais qu'il y a, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, parce que la danse classique, ce n'est pas un pas sur chaque note, c'est un récit avec des moments de lenteur, d'accélération, des moments de réflexion, de pause, de pensée, c'est un discours. Et ce que je reproche à la danse de Nureyev, c'est que justement, il n'y a pas de discours, il y a des moments, mais pas de discours. Enfin, moi, je vois comme ça, je ne sais pas ce qu'en pensent les danseurs de l'opéra. Ça met en valeur la beauté de chaque geste, la pureté du style, parce que là, il est tout nu, il ne peut pas tricher, puisqu'il se montre complètement nu, sans cette espèce de décoration, si vous voulez, que d'autres mettent entre les grands moments.
Donc dans votre ouvrage « Corps glorieux » Dominique Delouche, oui, on sent quelques réserves quant à son passage, comme vous le dites à l'instant, à l'Opéra de Paris, et notamment sur les derniers ballets qu'il a remontés.
Oui, bah c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire les ballets de Petit Pas, les Raymonda, les Bayadère, tout ça, qui n'existaient pas dans notre répertoire. Évidemment, ça manquait peut-être, mais ça a complètement envahi au détriment d'une tradition de ballet. Si vous voulez, il a complètement bafoué, déchiré l'héritage de Diaghilev, qui avait été continué par Serge Liffard. Il a débarrassé le plancher de tout ça, et il a donné un style de ballet. D'ailleurs, ce sont les ballets qu'on donne partout. Les ballets que il y a la version Nureyev de la Bayadère, mais il y a la version d'Arkharova, mais tout ça, c'est toujours la même chose, si vous voulez. Alors qu'autrefois, l'Opéra de Paris avait sa spécificité, avec des ballets d'action, dans la tradition, dans l'héritage de Diaghilev, où justement, il n'y avait pas que la danse, il y avait un spectacle total, où il y avait des sujets, des livrets écrits par des grands auteurs comme Cocteau, des musiques impérissables de Poulenc, enfin, toute l'école de Paris s'est mise au service des ballets de Diaghilev, puis de Liffard, des décors faits par des grands peintres de Rhin, Picasso, etc. Tout ça, évidemment, avec Nureyev, il n'y avait plus que la danse, et une très mauvaise musique dans la fosse d'orchestre, c'était musique de Pugny, de Minkus, qui sont vraiment indignes de l'opéra. D'ailleurs, que les musiciens d'orchestre répugnent à jouer.
Aujourd'hui, Véronique Doineau, que quand on songe à Nureyev, on pense corps de ballet.
Moi, j'ai été corps de ballet. Alors, évidemment, je ne peux pas oublier ça. Mais, par exemple, il faut savoir que dans sa structure de travail, si mes souvenirs sont corrects, il me semble qu'il travaillait très peu avec les étoiles en studio. Il faisait beaucoup de répétitions où il conviait tout le monde pendant 6 heures. Et il s'occupait des étoiles devant nous. Et après, les étoiles, il leur demandait de s'asseoir. Il s'occupait du corps de ballet. Donc, en fait, on vivait tous la même chose. Peu importe que certains aient plus à danser que d'autres. C'est aussi peut-être dans cette idée-là qui fait que, maintenant que j'enseigne aux petits, puisque j'ai la 6e division, donc les enfants ont entre 10 et 11 ans, je leur demande l'excellence dans le respect de la rigueur technique. Je ne leur demande pas de faire des tours dans n'importe quel sens pour en faire le plus possible. Je leur demande une certaine forme de placement, une certaine forme de rigueur, aussi bien musicale que gestuelle, pour arriver à obtenir des choses qui soient d'une qualité importante.
Vous avez été beaucoup distribué par Nureyev. Pourquoi, dans ce que vous n'avez pas fait, vous rêviez justement d'interpréter Abderrahm dans Raymonda ?
J'ai toujours été fascinée par la danse des garçons. Peut-être parce que j'étais une danseuse un petit peu gymnique. C'est vrai que j'aurais aimé faire des tours en l'air en scène. Tout du moins, aller dans la sensation. Après, il est évident que nous ne pouvons pas maîtriser la technique des garçons qui est très spécifique et très impressionnante. Abderrahm, moi, quand j'ai participé et que j'ai vu Raymonda pour la première fois, je me suis dit, voilà une façon de danser pour un homme dans lequel il y a simplement une trame orientaliste, et il ne faut pas oublier les origines de M. Nureyev, et qui, toujours au travers de cette exactitude musicale, cette gestuelle qui partait du classique et qui était transcendée par une vision plus orientale de la danse, finalement, ça proposait une image du danseur classique qui était très différente des ballets romantiques. Et moi, ça m'a vraiment intéressée. J'ai trouvé ça important qu'on puisse comprendre que, à partir du même langage, on peut donner des couleurs complètement différentes. Alors à propos de Raymonda, j'ai ce travail de transmission avec Dorothée Gilbert. Voilà, donc je suis très ravie de faire passer tout ce que Rudolf nous a inculqué et de trouver cette énergie, cette énergie de Rudolf, cette rage. Et d'autant plus que Raymonda, c'est un vrai marathon. Il y a 6 à 7 variations, des codas, des adages à n'en plus finir, comme un peu une belle au bois dormant, mais qui a plus de caractère, quoi, au final, avec toute cette partie très petit pas, pour le coup, du dernier acte, avec cette variation incroyable, de cette dernière variation de Raymonda, qui est une des grands rôles, une grande variation du répertoire.
Et qu'est-ce qui change justement ? Qu'est-ce qui se différencie entre la scène des claques, la variation des claques chez Petit Pas et la variation de Nureyev ? Qu'est-ce qui change ?
Par exemple, en Russie, si vous dansez la variation en claquant des mains très fort comme le souhaitait Rudolf, visiblement, ce n'est pas du tout compris. Donc, vous voyez, il y avait des petites divergences quand même. Mais je pense que c'est encore le côté masculin pour la danseuse qui ressort, quelque chose qui va jusqu'au bout, quoi, qui n'est pas édulcoré, qui est vraiment là dans un poids, dans un pouvoir, à bon escient bien sûr, pouvoir
ici,
des choses.
On n'entendait pas cette claque, elle était vraiment absente.
Non, visiblement en Russie c'est choquant d'entendre cette claque. Ce début de variation, donc avec cette claque qui claque.
Rudolf Nureyev.
Je crois que je suis très bon professeur. J'ai enseigné tous les danseurs de l'opéra. On ne peut pas, devant cette groupe sauvage, aller avec les doigts dans les bouches. Ils mordent
la façon sans pitié. J'espère que je peux clamer que j'ai influencé les danses de Charles Joude, parce que je trouve lui le meilleur danseur classique dans le monde entier. Et il y a Monsieur Legris et Hiller, Laurent Hiller, avec qui j'ai travaillé, j'ai insisté dans certaines façons de danser. Et il y a Mademoiselle Guérin, il y a Cheruzzi, il y a Morin, qui est tous les danseurs de mon choix et qui dansaient bien, même Sylvie Guillen.
Quand il est décédé, ça a été j'étais avec certains de mes camarades à porter le cercueil. Oui, mais vous savez, c'était un homme, il vous laissait pas insensible. Par moment, vous pouviez le haïr. Moi, j'ai failli me battre avec lui. J'ai failli lui foutre mon poing dans la gueule, quoi. Et en même temps, il y avait des moments d'amour incroyables. Moi, j'ai des souvenirs où je suis parti à moto avec lui, accroché, il conduisait à fond de train dans son ranch, là. On était là, je le serrais pour pas me casser la figure de sa bécane. Et voilà, on a passé une heure et demie tous les deux. Il m'a montré ses granges où il voulait faire un lieu de danse avec Eric Brown, qui voulait faire un truc. Il m'a dit, viens en vacances dans la maison. Alors j'y suis pas allé, du coup il m'a fait la gueule. Vous voyez, ça c'est Nouraïev. C'était comme ça. Moi j'étais un jeune danseur, j'avais bien dansé, il était content. Il m'a dit, viens, on part à moto tous les deux. Il y avait plein d'invités, hop, on est partis tous les deux. Il m'a raconté ses rêves, voilà, je voudrais faire ça avec une bourse pour les jeunes danseurs, machin. Il m'a parlé de ses maisons, de son truc, hein. Puis voilà, je refuse l'invitation parce que je ne me voyais pas aller venir chez lui. Et du coup, il fait la gueule. Après, il vous le fait payer cher. C'est compliqué de vivre avec un type qui a vécu la faim. Il a vraiment eu faim. Vous mangez à table avec lui, vous comprenez que ce mec-là avait eu faim, quoi. Sa mère a quand même brûlé une couverture pour faire fuir les loups, pour ramener 3 pommes de terre de la toundra, quoi. Ce mec-là, en plein goulag et tout, il était homosexuel, il envoyait chier le parti, il s'inscrivait pas au parti, et il faisait ce qu'il voulait, et il les envoyait bouler, quoi. C'était quand même un putain de tempérament, quoi. Je veux dire, vous retrouviez-vous avec un type comme ça, qui avait une rage de vivre, de gagner, qui pouvait être... La légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, que comme lui non plus n'était pas danseur classique, c'était rigolo, on le traitait un peu comme ça, et qu'un jour, il avait travaillé toutes les variations dans son coin, parce que c'était ça la rage de vivre. Et il a enfermé son prof à clé, il a jeté la clé par la fenêtre pour lui imposer de regarder ses variations.
Une vie, une œuvre, Rudolf Nureyev. Avec Patrice Barre, danseur étoile, maître de ballet à l'Opéra de Paris. Dominique Delouche, cinéaste. Véronique Doineau, ancien sujet à l'Opéra de Paris, professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elisabeth Morin, danseuse étoile, professeur à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Wilfried Romoli, danseur étoile, comédien. Remerciements à Anne-Laure Chang. Documentation INA, Hervé Evano. Prise de son, Éric DiMaggio, Frédéric Sordoyer, Pierre Caumont. Mixage, Serge Ristich. Un documentaire de Gillian Camp, réalisé par Bruno Sourcy.